Bonjour, on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Du coup, on passe sur un nouveau sujet autour du jeu. On va parler d'émotions. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une petite surreprésentation féminine pour rebondir sur les sujets un peu épineux qu'on a
juste
à
l'heure.
Moi je participe pas, hein, c'est vous qui bossez. En tout cas, parmi mes invités. Du coup. Je me défagote avant de pouvoir commencer à parler. De rien, c'est chaud. Voilà. C'est comme ça que je traite mes vêtements chez moi. Alors, tout d'abord... Pardon ?
Rien.
Bah, quel boulet, c'est ça ?
Moi ?
Merci. Tout d'abord, on va un petit peu explorer le sujet. L'idée, c'est de travailler sur la problématique de la relation à l'émotion dans différents supports, différents médias. On va parler de jeu de rôle, on va parler de grandeur nature, on va parler un petit peu de théâtre, on va aussi parler notamment de slam, parce qu'on a une invitée qui en fait. Je vais laisser mes invités se présenter, qui se posent un micro pour trois, donc je vais être obligé de partager. Je vous laisse commencer là-dessus.
Ok. Julien Poir, moi je suis podcasteur sur un podcast appelé Boîte d'intérêt comme Globo qui était là à l'instant. J'écris aussi des jeux, j'ai fait du jeu de rôle un peu sous toutes ses formes, que ce soit sur table, sur forum, en GN, etc. Donc j'ai une expérience assez large et antique sur le sujet sans être aussi expert que les interlocuteurs précédents.
Donc Eugénie, célèbre blogueuse, j'ai un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais donc ça pose un peu la. L'idée. J'interviens des fois sur les voies d'intérêt quand je suis sage. Et moi je suis arrivée au jeu de rôle après avoir fait beaucoup de théâtre d'impro à Old Dog. Donc du coup j'ai une approche du jeu de rôle qui n'est pas toujours forcément canon. J'ai fait un tout petit peu de GN, pas des gros trucs, mais des huis clos, des murders, des trucs comme ça. Et voilà.
Donc moi c'est Emmanuel, podcasteuse à la cellule, la branche pacifiste de la cellule, pas seulement, bon, du coup la slameuse, voilà, dénoncer c'est moi, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire qu'on écrit des poèmes, des pamphlets, des textes, et que l'objectif c'est de les porter sur la scène face à un public, donc de les porter en termes de messages, en termes d'émotions, voilà, je crois que c'est pour ça que je suis là. Et voilà, une petite expérience en théâtre aussi qui complète, et mais vraiment toute petite, plus expérimentale qu'autre chose.
Alors pour commencer, j'ai une première question, parce que j'étais un peu taquin quand j'ai écrit le sujet, et j'ai parlé de GN, j'ai dit à théâtre, et jouer avec les émotions. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là, jouer avec les émotions ?
Allez, alors c'est vrai qu'il y avait on a senti un peu les deux branches, la branche très manipulateur de celui qui va faire ressentir des émotions, qui va pouvoir créer des choses intentionnellement et même des choses un peu taquines justement chez les joueurs, chez les interlocuteurs, donc quelque chose sur lequel on joue beaucoup aussi quand on est sur une scène et face à un public. Et puis aussi, je crois que ce qui nous a aussi beaucoup marqué, c'est nous faire éprouver des émotions, faire naître des choses chez nous, parce que ça fait partie des rôles de nos loisirs.
Il y a, dans le fait de jouer avec ses émotions, il y a le fait aussi de ne pas les subir, en fait. De les provoquer, de les canaliser, d'aller sortir des trucs assez, assez forts qu'on ne s'autorise pas forcément à éprouver, genre, je ne sais pas, la toute-puissance totale, la tyrannie, enfin voilà, des trucs qu'on peut expérimenter en jeu de rôle, mais qu'on évite de le faire dans sa vraie vie. Et voilà, cette espèce de jubilation, par exemple, d'hémurgique, on peut se permettre de jouer avec, mais on la subit pas, et c'est pas l'émotion qui nous guide, en fait, c'est nous qui en faisons quelque chose.
Difficile d'ajouter des choses intéressantes après ces deux interventions, néanmoins, pendant très longtemps, en tant que meneur de jeu ou en gars, en GN ou en semi-réel, comme on disait, je considérais que mon rôle, c'était de jouer avec les émotions, enfin, plus que jouer avec les émotions, de provoquer les émotions chez les joueurs avec qui les joueurs, avec qui je jouais. Et il se trouve que, petit à petit, dans mon expérience et dans l'évolution, je me suis mis aussi à jouer avec les miennes, et avec ce qu'on pouvait ressentir à une table de jeu, en basculant du rôle de meneur au rôle de joueur, et du rôle d'orga qui essaye de générer de quoi occuper les gens qui participent à son GN, à celui de participants dans des gènes plus expérimentaux qui sont tournés autour des émotions. Et il se trouve que ça va apporter énormément et qu'effectivement, je vais citer, comme j'aime bien le faire, le grand philosophe Nolo, que vous avez pu entendre précédemment, qui nous disait sur un podcast où on parlait de jouer justement avec quelque chose d'un peu difficile, qui était jouer avec le mal. Et dans cette émission, il nous disait, moi, dans la vie, j'essaie plutôt d'être quelqu'un de bien. Donc quand je joue de temps en temps, j'aime bien explorer cette part sombre. J'aime bien jouer avec ce mal et être un salaud. Il disait, j'aime bien être un salaud, mais je ne dis pas la phrase. Voilà, donc on peut s'autoriser effectivement à jouer avec des émotions comme la tristesse, la dépression, la douleur, etc. Autant qu'avec des émotions plutôt positives, que ce soit l'exaltation, que ce soit la jubilation, que ce soit l'amour, etc. Voilà.
Alors on va passer une question sur les publics, parce que forcément sur les médias dont j'ai manqué les noms, on a forcément des publics différents, des publics ont un rapport très différent à ce qu'ils viennent chercher. Donc, est-ce que vous pouvez en parler justement de vos publics, que ce soit en jeu de rôle, que ce soit en théâtre, parce que vous avez des expériences, etc. là-dessus. Je vous laisse la main.
Alors, du coup, moi j'avais fait une petite liste. alors, il y a des publics dont on ne va peut-être pas parler parce que c'est pas forcément la peine, mais il y a le public collectionneur qui veut posséder les jeux. Et pas forcément ni les ouvrir, ni les jouer, mais voilà, il y a ses propres émotions vis-à-vis de ça. Il y a le public lecteur, que ce soit en jeu de rôle, peut-être moins en GN, parce qu'il y a moins de publications, mais les pièces de théâtre aussi, ça se lit, et il y a un public lecteur qui n'a pas forcément besoin de se déplacer au théâtre pour en profiter. Et après, dans l'expérience, on passe au public spectateur. Il y a en jeu de rôle maintenant, aujourd'hui aussi, on commence à admettre que c'est aussi un spectacle. Je pense au succès de la série Aventure chez le joueur du grenier. Le succès public fait que, ok, c'est admis que c'est un spectacle. Et bon, bah, le public de théâtre, on voit où il est, quoi. Et il y a le public pratiquant. C'est-à-dire, si on veut comparer un public de jeu de rôle et un public de théâtre, c'est aussi les gens qui vont faire des ateliers théâtre, qui vont monter des pièces. Ça, si on veut comparer un joueur de jeu de rôle ou une joueuse de jeu de rôle avec en termes de public, la même personne est à la fois la personne qui va venir faire de l'atelier théâtre et qui va monter sa pièce et la personne qui est dans la salle. Donc les comédiens, comédiennes et le public de théâtre sont fondus en un en jeu de rôle. En GN, je connais moins les dispositifs, donc du coup, je sais pas.
Écoute, moi, dans mon expérience, du GN qui se regarde en étant extérieur, à part dans des manifestations qui sont proches du GN, comme la constitution médiévale ou la constitution historique, où là, il y a du public qui se balade, que j'ai très peu fréquenté, donc ça, je pourrais pas en dire beaucoup plus. Dans les GN que j'ai vus, que ce soit des GN avec des grands nombres de joueurs ou avec des petits nombres de joueurs, le public est essentiellement constitué par les autres participants, qu'ils soient BNJ, PJ, etc. Mais de temps en temps, j'y pense en parlant, sur les projets, on a aussi des gens qui participent en marge au jeu, qui s'occupent de la logistique, qui viennent, parfois il y a même des boutiques, etc. Et là, on a des publics qui vont regarder ce qui se passe. Et j'ai vu aussi beaucoup de joueuses et de joueurs qui s'arrêtent de jouer pour regarder une belle scène à laquelle ils ne participent pas, juste pour le plaisir de ce qui est en train de se jouer de l'autre côté du marché. Bah, par exemple, je vais citer le GN Conan, pas de cette année, mais de l'année dernière, dans lequel on a un moment où tout s'arrête sur la place du marché parce que arrive le grand émir de je ne sais plus quelle nation sur son dromadaire avec musiciens, danseuses, crieurs, etc. Et c'était hyper impressionnant et on s'arrête juste de jouer pour voir ce qui se passe, quoi. Alors après, on fait des commentaires, on reprend la main, mais voilà.
J'aurais deux petites distinctions, une qui vient de ce que tu viens de dire. D'abord la distinction public captif et non captif. C'est vrai que sur ce genre de choses, même sur un GN, il y a des gens qui peuvent s'arrêter, des gens qui peuvent intervenir, des gens qui peuvent réagir, mais on est quand même sur des espaces suffisamment grands pour que voilà, ils vont être là parce qu'à cet instant-là, pardon, waouh, bravo, parce qu'à cet instant-là, ça les perturbe, ça les captive, ça les intéresse. Et puis, il y a le public captif de la table de jeu de rôle, qui n'est pas forcément toujours intéressé par ce qui s'y passe, mais qui est censé être assis là, qui ne peut pas trop dire à ses copains « vous m'emmerdez », etc. Donc déjà, première distinction, et par rapport à ce qui est renvoyé et à la façon dont c'est vécu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, il y a aussi le côté public discipliné et indiscipliné. Je vois beaucoup la différence au théâtre en général. On se tait, on est tranquille, même si on s'emmerde, on roupille, même si on part ronfler trop fort. Si on n'est pas d'accord et qu'on trouve les comédiens très mauvais, on essaye de rien dire non plus. Moi, sur les scènes slam et les performances scéniques, on est habitué, je suis très habituée au bar, où il y a beaucoup de gens qui parlent, donc qui peuvent complètement s'en foutre, des gens qui peuvent manifester leur désapprobation, ils ont le droit, qu'ils soient bourrés ou pas. Et puis de façon générale, voilà, on est aussi sur des choses qui sont des stand-up, où les artistes se succèdent les uns aux autres, donc les gens vont aimer, pas aimer, réagir d'une bonne façon, d'une mauvaise façon. Et voilà, on peut aussi se retrouver à générer des émotions qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'on voulait, se faire renvoyer des messages qui ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attendait. Et alors là, ça peut faire des dissonances cognitives assez violentes et assez intéressantes aussi. Mais que du coup, on peut retrouver dans le jeu de rôle aussi quand les copains ne réagissent pas comme on s'y attendait.
C'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. En fait, le public, il a un rôle à jouer. Le public de théâtre, son rôle, c'est de ne pas faire de bruit. Et puis s'il sort de son rôle, il y a toute la salle pour lui rappeler autour que chut, ce genre de choses. Ou son rôle, c'est d'applaudir à la fin. Parce qu'il n'est pas très content, il n'applaudit pas beaucoup, mais il applaudit quand même. En jeu de rôle, on devrait... Alors moi, ça c'est mon idéologie, mais je pense qu'on devrait s'autoriser à jouer notre rôle de public. Moi, j'avoue, c'est ce que je fais. Et moi, j'applaudis quand il y a une scène géniale qui se passe entre une joueuse et le MJ ou deux joueuses entre elles. Et je trouve ça génial. Et ben, je le dis. Et quand il y a un truc qui arrive un peu horrible, et je fais, et j'en fais un peu des caisses. Mais ça, pour moi, c'est mon rôle de public. Et c'est important qu'on partage ensemble les trucs que je ressens, quoi. Et que je ressens pas parce que c'est mon personnage, mais parce que c'est moi et je kiffe, quoi.
Quitte à se prendre les ayatollahs de l'immersion sur le point de la figure, parce que aussi ça veut dire casser potentiellement une scène avec une réaction, ça veut dire sortir.
Alors en fait, au début ça fait bizarre, une table de jeu, comme on a eu l'occasion de jouer pas mal ensemble, mais en fait c'est extrêmement agréable et ça te pousse, ça te montre que ce que tu es en train d'incarner, ce que tu es en train d'essayer de faire passer, ça a un impact. Et ça, c'est extraordinaire pour progresser dans sa façon de jouer et pour profiter même de la partie. Donc du coup, au lieu d'avoir une réaction de « Eh, mais attends, je suis en roleplay, là, tu chier », c'est pas du tout ça l'effet. L'effet réel, pour moi en tout cas, ça a été vraiment d'avoir une validation de ce que j'étais en train de jouer et donc de pouvoir me lâcher encore plus sur le roleplay plutôt que d'être en train de me dire « Bon, ouais, ça fait deux minutes que je suis en train de parler, je suis en train de les emmerder, bon, bah voilà, bah, je vais jeter les dés. » Non, on peut vraiment jouer de cette manière-là, face à un public.
Ouais, effectivement, je faisais côté avocat du diable, mais c'est vrai que moi, c'est des choses que je trouve extraordinaires, c'est quand on se retrouve à avoir des réactions en face, même à des moments où on s'y attendait pas forcément, un public qui se met à rire, un public qui se met à réagir, et où il y a une énergie de fou qui se... Enfin, je me retrouve en transe sur scène, des fois, j'ai un peu quand je dis ça, mais on peut se retrouver en transe, et c'est vrai qu'on peut avoir des tables où ça fuse de tous les côtés, et où on le vit, quoi. C'est aussi ça qui donne la vie, parce qu'on laisse libre cours aux émotions. Je sais pas si on se sclérosait tous, si on essayait tous de garder le poker face, je pense qu'effectivement on n'aurait jamais des fulgurances comme ça.
Je sais pas, je pense que c'est chacun. Enfin, il y a vraiment différentes façons là, pour le coup, d'approcher le truc, et je pense qu'il y a des gens qui sont tellement immergés. C'est un peu comme une paralysie du sommeil, quoi. Le corps bouge plus parce que sinon ça les ramènerait à la réalité. Et donc, c'est un autre kiff donc, que j'ai pas connu perso. Mais moi, je suis plus justement dans ce kiff-là du show, du partage, du moment où on est tous ailleurs, mais on y est tous ensemble. Et c'est vrai que l'immersion, juste moi dans mon personnage, à un tel point que j'ai pas envie de revenir à la réalité pendant ces 3 heures-là, je l'ai pas connu. Donc, je pense qu'elle existe. C'est une autre émotion.
Alors du coup, on peut revenir sur un sujet qu'on voulait aborder, c'était notamment celui de l'implication du joueur. J'entends ou de la joueuse, mais tu sais bien que la chose n'a pas dans deux sens. En l'occurrence, le sujet que je voulais aborder, moi, c'est celui que vous avez mis en lumière là, à savoir votre rôle en tant que joueur autour d'une table. On va parler vraiment de rôle ici. A-t-il toujours été conscient du public autour? Toi, oui, visiblement, Eugénie. Julien, c'est visiblement quelque chose que tu découvres un peu sur le tard. Il y a une question sous-jacente à ça, c'est autour du table de jeu, on est un groupe. On est un groupe, alors c'est l'une des groupes, mais c'est pas systématique ou drôle, d'être dans un schéma qui est souvent coopératif. Et jusqu'où, enfin, quelle est la nature de la coopération? Est-ce qu'elle est seulement face à l'aventure, ou est-ce qu'elle est aussi dans un soutien de la part des autres joueurs dans mon interprétation, et donc dans ce que je porte émotionnellement? Est-ce que j'obtiens le soutien de mes collègues à ce moment-là pour qu'ils me poussent à roleplayer au mieux de mes capacités?
Alors, en ce qui me concerne, il y a vraiment une différence très 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 importante entre rôle de meneur de jeu et rôle de joueur. Historiquement, je veux dire, dans mon cas. Faire ce qu'on disait, encourager les gens à faire du roleplay, ne pas les juger, renforcer ce qu'ils font, presque pas applaudir, mais presque applaudir quand ils font quelque chose d'intéressant, en tant que meneur de jeu, c'est un truc que j'ai appris à faire très vite. Parce que tu te rends compte que c'est le moyen que tu as pour décoincer les gens et leur permettre d'y aller, quoi. En revanche, en passant de l'autre côté de la table, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, parce que l'interaction, elle était beaucoup plus tournée entre joueurs et meneurs de jeu que de joueurs à joueurs ou joueuses à joueuses. C'était forcément... on y pensait beaucoup moins. Et tu te rends compte, quand tu commences à préoccuper de ce genre de choses et que tu mets en place une coopération justement pour se soutenir de ce point de vue-là, ça marche beaucoup mieux. Parce que la scène typique, c'est machin joue un perso social. Il va donc aller négocier avec le duc de je ne sais où, et il va discuter avec le meneur de jeu. La discussion, elle se fait, il y a du roleplay, c'est clair, c'est bien et tout. Pendant ce temps-là, j'ai deux autres personnes qui sont en train de discuter entre elles. J'en ai une troisième qui vient sortir son portable et fait autre chose. Parce que on sous-estime beaucoup le plaisir de spectateur qu'on peut avoir, justement, le plaisir de public qu'on peut avoir autour d'une table de jeu. Et se concentrer sur ce rôle de public en se disant « je vais accorder mon attention, même quand je ne suis pas en train de jouer, je vais manifester mes réactions en bien, surtout, éventuellement un peu en mal quand ça commence à déraper », je pense que c'est quelque chose d'effectivement très important dont on a assez peu l'habitude. Et moi, ça a commencé à venir en lisant le blog de Génie, hein, sur les articles sur Concédé, etc., avant qu'on se rencontre. Voilà. C'est venu de là, en fait. Et à partir de là, construire une pratique différente qui nous permet d'évoluer. Si je repasse 30 secondes sur le GM, et sur les... je me souviens de la première soirée de GM Vampire que j'avais organisée. J'avais les pétages comme pas possible parce que je devais faire simplement la boule qui venait annoncer l'ouverture de la soirée devant mes 20 personnes. Mes 20 joueurs qui étaient là. C'était quasiment que des amis. Et ben, j'étais comme ça, quoi. Presque incapable de sortir. Bon, puis après, ça s'est déclenché et c'est allé. Et à partir de cette expérience-là, j'ai considéré qu'en tant qu'organisateur, mon rôle c'était de divertir les autres, donc de leur donner du spectacle. Quand j'étais joueur, ben non, je jouais pour moi, quoi. Ben, à la foule des autres, hein. Sauf si j'étais PNJ, là, encore une fois, je jouais pour les autres.
Alors, d'abord, la question des comportements, qui m'intéresse pas mal. Donc, qu'est-ce que je viens chercher en tant que joueur, ou en tant que d'ailleurs, organisateur, hein, ou MJ? J'ai une intention, je vais porter des émotions. Qu'est-ce que je viens chercher soit en tant que public, soit en tant que joueur, soit en tant qu'organisateur? Qu'est-ce que je viens chercher? Des postures différentes, et est-ce qu'elles peuvent d'ailleurs être entendues?
Et ben c'est intéressant. Moi, je trouve que sur le, il y a plein de types d'émotions qu'on peut venir chercher, en fait. Il y a juste déjà la jubilation d'être ensemble et de partager un truc qui sera unique, qui n'existera pas, c'est pas reproductible. Et mine de rien, j'ai beaucoup été formée à l'impro, donc c'est pareil, c'est comme une partie de jeu de rôle, c'est unique. Même si on veut refaire la même histoire, on n'arrivera jamais à... Voilà, c'est un moment, c'est pas une histoire, c'est un moment, quoi. Et il fallait être là. En théâtre-texte, donc quand il y a une pièce qui a été préparée, etc., mine de rien, c'est comme tout spectacle vivant, il y a une marge qui est un peu plus petite, mais qui est aussi, il y a une variable aussi, et notamment qui tient vachement au public. Alors, je vais sortir peut-être du cadre du théâtre, mais hein, pour que ce soit clair, mais un concert de rock, par exemple, même si les chorégraphies, elles sont hyper calibrées, même si les mecs, ils jouent vraiment pareil d'une fois à l'autre, si le public, il est on fire, c'est vraiment pas la même chose que s'il joue à la maison de retraite et que tout le monde est en train de manger sa compote sans écouter. Et du coup, le public a vraiment son rôle à jouer pour renvoyer. Il y a un dialogue qui se fait pour renvoyer l'émotion. Et ce qu'il vient chercher, quelque part, il l'apporte, c'est l'auberge espagnole. Il l'apporte avec lui aussi. Et donc, voilà, ce partage-là d'un moment unique, il compte dans l'émotion qu'on vient chercher. Il faut qu'on y mette une autre aussi.
Alors, c'est vrai que moi, je vais rechercher aussi. Très personnel, je ne sais pas si ça parlera à d'autres, mais je vais aussi beaucoup rechercher l'émotion que j'étais pas, à laquelle je n'avais pas pensé, et c'est vrai que ce soit sur tous les médias, pas seulement jeu de rôle, mais avoir un personnage en face qui a un gros bourrin et qui à un moment va me faire pleurer parce qu'il y a une scène émouvante, parce qu'il y a une scène difficile, c'est aussi ce genre de choses. Qu'en tant que public, en tant que joueuse ou meneuse, je recherche, c'est-à-dire quelque chose qui va surprendre, quelque chose qui va faire une cassure. Parce que les émotions trop faciles, les émotions trop évidentes, elles viennent vite. Effectivement, on sait qu'il va y avoir l'exaltation de la bagarre, on sait qu'il va y avoir les éclats de rire de la scène marrante dans la taverne. Mais en même temps, ces émotions-là, elles sont faciles, elles sont attendues, elles sont presque redondantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'on devient très difficile quand on a joué à des jeux assez différents, c'est qu'on a envie d'être surpris aussi. Et c'est pas si fréquent.
Après, là, je pars dans la science-fiction pour moi, parce que du point de vue du meneur de jeu, ce que je ne suis pas, il y a peut-être aussi le plaisir d'orchestrer. De chef d'orchestre ou de mise en scène où chacun est, enfin moi je m'en parle,
pourquoi je parle de ça
chaque joueuse se pointe avec son perso, ses habitudes de jeu, on sait à peu près comment ça va se passer, il s'agit juste de dire de balancer les bons trucs au bon moment pour que ça passe, de mettre des coups de projo sur des trucs. On a plus quelque chose de l'ordre du montage, de la mise en scène, et on laisse l'histoire prendre forme comme ça. Quelque part, on façonne un peu de l'extérieur. Alors, moi, je joue peu avec scénario, ça se voit. Mais j'imagine que c'est encore un autre plaisir quand on a bossé son scénario avant et qu'on est là pour le faire découvrir, quand on a bossé un monde avant et qu'on est là pour que les autres viennent l'explorer. Et alors là, pour le coup,
Il y a un moment, en tant que meneur de jeu, où face à tes joueuses, tu es clairement en représentation. C'est dès que tu vas incarner un certain nombre de PNJ sur lesquels tu vas avoir travaillé, sur lesquels tu vas peut-être même de temps en temps avoir répété des mimiques devant ta glace, testé des tics de langage, testé des accents, parfois, pas forcément très bien, on peut le faire. Et à ce moment-là, tu es là et tu dis, voilà, ce PNJ, je veux absolument qu'elle s'en souvienne, je veux absolument qu'il vienne récurrent dans ma campagne, et je vais jouer. Et alors, ce qui est très très drôle, en tant qu'homme meneur de jeu, c'est qu'on est amené à jouer des hommes, des petites filles, des grands-mères, etc. Et qu'au début, il y a quand même ok, on n'est pas au théâtre, il n'y a pas de costume, c'est l'imagination qui marche, mais il faut quand même que je leur fasse la grand-mère. Et bien, ça permet d'avoir et d'aller chercher, là aussi, des émotions particulières face à ce public-là, parce que quand on se jette à l'eau de cette manière-là, en essayant des rôles qu'on n'a pas fait avant, qui sont éphémères, qui ne sont pas très impliqués en dehors de transmettre un indice sur une discussion, etc., quand ça marche, et que le public, le joueur en face de nous, les joueuses, réagit, ben nécessairement là, l'émotion, elle naît, et c'est à la fois une satisfaction d'avoir réussi, mais on peut aussi se laisser embarquer dans le rôle, quoi, et ressentir les émotions. Jouer quelqu'un qui va aller voir au suppliant parce que, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre dernier espoir, ça peut titiller les choses, ouais. Et faire couler la petite larme aussi. Hein.
Au final, par rapport à ce que vous disiez tous les deux, il y a un petit côté très focus aussi, parce que même quand tu dis ressentir les émotions qu'on est en train de jouer, au final, ce qu'on recherche, c'est l'exaltation d'avoir quelque part bien joué, et Je me souviens de moments où je me suis énervée, mon personnage s'est énervé en avoir les larmes qui coulent, et puis c'est vrai que le moment où le jeu dit ah, t'es sûr que ça va, tu t'as. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu focus, effectivement, on va avoir toute une gamme d'émotions, mais on est peut-être aussi un peu là juste pour notre fierté personnelle. Je suis super narcissique, peut-être. Mais...
Non, je kiffe ça aussi. Le côté, j'ai joué, je suis super fière de ce que j'ai fait, quoi. Parce que moi, pour le coup, je suis un barbare, je me pose pas la question si je suis crédible ou pas. Je suis juste trop contente de le faire. Mais il y a un dernier, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, peut-être, c'est le rapport à notre personnage. Parce que c'est vrai qu'on parle de trucs de meneur de jeu, de trucs de co-création ensemble. Mais le rapport à notre personnage en termes d'émotion, il est super important aussi. Il y a plusieurs façons d'envisager le jeu de rôle. Il y en a une que c'est pareil, encore une fois, je parlais de trucs que je connais pas. C'est de jouer pour une réalité virtuelle, en fait. C'est-à-dire qu'on se met dans notre personnage et on peut expérimenter une réalité virtuelle dans notre tête, dans ce qu'on partage ensemble. Et c'est une approche qui est différente, pour le coup, qui est peut-être plus proche de l'immersion dont je parlais tout à l'heure, que de jouer pour un partage où on se dit on est content de créer une histoire ensemble. Et où du coup on a des notions de est-ce que la scène elle est classe pour tout le monde, plutôt que est-ce que je suis juste vis-à-vis de mon personnage. Est-ce que ça sonne bien, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il est vraiment plaisant. C'est pas exactement le même positionnement, et c'est ce qui fait que des fois aussi entre rôlistes on a du mal à se comprendre, parce qu'on parle pas, on a les mêmes mots, on joue au même truc, et on n'a pas du tout la même sensation, la même façon de recevoir l'expérience, en fait. Et ça, c'est un loisir, c'est riche pour ça. Et c'est marrant parce qu'en théâtre, par exemple, la question, elle se pose pas. Parce que le public, il est à l'extérieur, lui, il sera pas en réalité virtuelle. Par contre, du point de vue des comédiens, la question, elle peut se poser. Est-ce que je me mets tellement dans la peau de mon personnage que, à la scène où il doit pleurer, et ben, ça va être des vraies larmes? Ou est-ce que je garde une... Enfin, j'essaie de faire monter quelque chose qui soit sincère, mais par contre, je le contrôle et je le canalise et je le projette pour les autres pour que ce soit cool à voir pour les autres. Et ça, c'est un truc, du coup, on en a parlé avant. Mais voilà, moi, j'ai eu une metteuse en scène qui nous disait « Si tu veux que ton public pleure, toi, tu pleures pas. Tu fais monter les larmes, mais si elles coulent, c'est fichu. » Il faut que tu les laisses au bord des yeux, et c'est le public qui va pleurer. Et c'est quelque chose où, en GN, ou en jeu de rôle, on vient pour nos larmes à nous. On vient aussi parce que s'il y a un truc qui doit monter, je vais en profiter jusqu'au bout. Bah, moi, j'ai envie de pleurer, et j'ai pas forcément envie de faire pleurer les autres, de retenir ma propre émotion pour que ce soit les autres qui en profitent, quoi. Je sais pas si je suis hyper claire.
C'est vrai que moi, sur cet aspect scénique, c'est aussi quelque chose que j'ai intégré, c'est, même quand je parle de trans, etc., c'est toujours garder une lucidité quand même, ne serait-ce que parce que de toute façon, il faut assurer le rôle, il faut assurer le texte, qu'il peut y avoir un trou, qu'il peut y avoir n'importe quoi qui se passe, et que dans tous les cas, on a quelque chose aussi à poursuivre et à faire continuer. Et effectivement, au moment où ta larme elle coule vraiment, t'as perdu un contrôle. Et voilà, et ce contrôle-là, il y a des fois où on ne peut pas se permettre de le perdre, et où en plus il fait presque une rupture, il y a presque un risque de rupture avec le public, parce que si le public n'en est pas exactement à ce stade de son émotion, et que lui n'en est pas au moment où la larme elle va couler, il y a peut-être un risque qu'il dise oh là, elle ressent quelque chose que moi je ne ressens pas et qu'elle ne m'a pas fait sentir, il y a un problème. Là, on se retrouve avec un mur, un fossé qui se creuse presque entre les deux, je dirais.
En fait, c'est un peu une question d'orgasme simultané. Quoi.
Je savais qu'on allait en venir là. Ouais, ça. Donc, ne pas oublier l'orgasme de l'autre et retenir le sien jusqu'à ce
Ok. J'allais dire que moi, je suis un sale égoïste, mais ça résonne étrangement après cette intervention. Au contraire, enfin, jouer pour les autres, c'est quelque chose que je disais que j'apprends, que je découvre, que je développe, et j'apprends aussi en même temps à jouer pour ma propre émotion de façon un peu différente.
Je vais notamment sur certaines parties aujourd'hui pour essayer de me mettre dans le personnage, me conditionner un petit peu au préalable et me concentrer avant les parties sur certaines émotions parce que je sais que si je les ressens, je vais mieux les faire passer dans mon personnage et je vais les ressentir d'autant plus. Et mon roleplay physique va s'en ressentir aussi puisque je vais avoir des gestes, je vais avoir des attitudes qui vont être marquées par ça. Mais quand je le fais, je ne suis pas du tout en train de penser que j'offre ça à un public. Je suis en train de me dire, je m'offre ça à moi, parce que mon perso va être sympa. Et puis, les fois où je pense au public, c'est en me disant, tiens, ben, on va voir comment ils vont réagir quand je vais faire ça. Mais ce n'est pas pour leur donner, c'est pour m'offrir le plaisir de les voir réagir face à ce genre de choses. Par exemple, j'ai joué dans une campagne récente de Burning Wheel un orc, un esclave. Esclave libéré, assassin de roi, enfin, tout classique, peut-être fun, quoi. Et il se trouve que je faisais monter systématiquement, avec de la musique et sur le chemin, les émotions de frustration, de colère, etc. Évidemment, quand j'arrivais, je disais bonjour à tout le monde et je leur renvoyais là-dessus, mais le fait de l'avoir fait dans le trajet avant d'arriver dans la partie, ça permettait de le faire ressortir pendant les parties, de ressentir ces émotions-là. Et effectivement, c'est là qu'on a eu des petits soucis du fait que moi, je ressentais ça, mais je ne le montrais peut-être pas assez parce que c'était très intérieur. Et du coup, c'est pas forcément perçu autour. Et comme c'était pas perçu autour, on avait des interactions qui n'étaient pas toujours efficaces, qui n'étaient pas toujours intéressantes. Alors pour moi, c'était un grand kiff, mais pas nécessairement pour les autres.
Je te remercie, tu viens de me faire penser à ce nombre de soirées que j'ai préparées en écoutant Pilgrimage de Michael Schnells, pour ceux qui connaissent, bref. Je pense que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé ici. En l'occurrence, du coup, je vais orienter un petit peu l'échange sur quelque chose d'un peu plus frustrant qu'un orgasme, et justement sur la problématique de modération. Quand moi je suis meneur ou joueur et que je vois quelqu'un craquer, j'ai beau maître. Comment vous faites pour gérer ça?
Tu as 2 jours pour en parler?
J'aimerais bien avoir 5 heures, mais on est limité.
Qu'est-ce que tu entends par craquer?
Quelqu'un qui craque au sens qui pleure, quoi. Qui se met à pleurer ou qui est mal.
Qui rentre en crise,
oui, complètement, ouais. Qui rentre en crise. Alors là, on peut avoir ces.
Qui ne contrôle plus, en fait. Qui se laisse déborder.
Alors, qui se contrôle plus, qui se laisse déborder, ou dont j'ignore s'il est encore dans le contrôle, en fait.
D'accord.
Parce que c'est toujours problématique, on parle d'émotion. Tu parles de choses qui ne sont pas dites, quoi.
Si on en arrive là, c'est pas qu'on aurait dû arrêter plus tôt. Après, c'est extrêmement difficile, surtout quand on joue sur les conventions, etc., avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vrai que faire gaffe aux signaux, savoir si la personne elle est dans l'émotion. Mais après, j'ai presque envie de dire, alors peut-être que je nie quelque chose aussi, j'ai souvent tendance à faire ça par rapport aux émotions négatives en jeu de rôle, mais peut-être aussi qu'une personne qui craque, une personne qui va aller dans l'excès, dans la tristesse ou dans la colère, c'est probablement rarement à cause du jeu seul, et c'est peut-être parce qu'il y a un background, il y a la vie, il y a du vécu, et que à ce stade-là, c'est comme de toute façon une situation dans la vie de tous les jours où on finit par péter un câble pour un verre cassé ou un truc comme ça.
Alors si tu le permets, je vais préciser ma question, je reprends le micro.
Vous parliez tout à l'heure d'aller jusqu'aux larmes, de les faire couler, etc., de prendre l'émotion et quelque part de la vêter, quoi, de la manger pour vous. Quand ça arrive face à un public, autour d'une table, ou même dans un GN, parce qu'en GN, c'est chaud à gérer ça. Que vous éprouvez un certain plaisir à vivre cette émotion et qu'en face, vous avez des joueurs qui sont perdus, parce que vous êtes en train de jouer cette émotion. Comment je produis ça?
Alors, il y a plein de cas de figure. Il faut savoir qu'il y a un courant de jeu de GN qu'on appelle trivialement le GN à Chouine. Où c'est le but. Je veux dire, si on n'a pas pleuré, on a un peu raté sa partie. Donc là, clairement, on sait pourquoi on vient, on sait comment ça risque de réagir, et il y a des dispositifs qui sont mis en place en amont pour être sûr qu'il y ait des moyens de signaler ça va pas et qui prêtent pas à confusion. Histoire qu'on sache que quand il y a quelqu'un qui se lâche complètement et on sait que en fait c'est ok, s'il fait le signe que c'est ok, c'est que c'est ok et on peut continuer à alimenter le truc. Je vais pas détailler tous les dispositifs qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle, on va dire techniquement, la sécurité émotionnelle, mais il y a des choses qui sont mises en place pour que justement on puisse se dire, on va se démonter la tête et le cœur sur cette partie-là. Alors c'est pas en jouant à donjon, hein. Ça pourrait, mais il y a vraiment des trucs qui sont calibrés pour aller taper là où ça fait mal, où on joue des scènes atroces avec des personnages affreux, avec il y a des trucs qui sont faits pour que tu souffres et que tu kiffes, mais c'est un cours. Et pour ces trucs-là, il y a des outils, a priori, avec le jeu, il y a des outils. Si on se lance sur ce sujet-là, enfin, on se dit, voilà, on va jouer, je sais pas, moi, on joue un cercle de paroles de victimes d'agressions sexuelles qui se racontent leur truc. Moi, j'y vais pas sans rien, quoi. J'y vais que du matos pour être sûr qu'on aura des moyens de dire est-ce que ça va, on aura des moyens de signaler si ça va pas, si ça touche des trucs, voilà, fallait pas toucher, j'étais pas au courant, j'avais ça en moi, mais je voulais pas y toucher. Donc, ça, c'est un truc. Après, il y a quand l'émotion, elle surgit au milieu de la campagne de donge, alors que je n'y attendais pas. Et là, c'est autre chose. Pour moi, la façon de gérer ça, c'est vraiment de base, c'est l'écoute. C'est être bienveillant et attentif envers les autres. Et c'est hyper important. On prend tous soin les uns des autres et on prend soin de soi-même. Et c'est pas juste un truc que c'est le MJ qui gère. C'est super, pour moi c'est super important. Si le MJ, il a tellement de trucs à gérer qu'il peut passer complètement à côté des signaux. Par contre, si moi je vois qu'il y a un joueur qui se tortille sur sa chaise à côté de moi depuis un moment, qui met super longtemps à répondre quand on lui demande qu'est-ce que tu fais et qu'il tergiverse et qu'il y a des trucs qui vont pas, ou que il est en train de raturer sur sa feuille de personnage, ou il y a des signes où on dit oh là, est-ce que ça va ? Et je peux lui demander sans casser le jeu parce que je suis à côté de lui, parce que moi j'ai vu qu'il y a un truc. Et il y a moyen d'avoir ces échanges-là, en fait, sans passer par la fiction et sans passer par le meneur de jeu qui devrait gérer ça pour tout le monde.
Voilà. J'ai juste un tout petit truc à rajouter là-dessus, c'est dire que aucune immersion, aucune partie ne vaut blesser quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que, je suis désolé, mais même si vous êtes en plein trip, en pleine immersion, et il y a quelqu'un qui ne va pas à côté, eh bien, tant pis, on arrête le jeu. C'est un jeu, l'immersion, on peut la reproduire. Il y a vraiment pas de doute à avoir là-dessus, quoi. C'est pas grave. Et ça veut dire aussi qu'il faut accepter que quand on joue, on peut avoir quelqu'un qui nous interrompt. Et ça, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, faire attention aux autres, c'est aussi accepter qu'on peut être fauché en plein vol dans une envolée lyrique, dans une scène absolument incroyable, mémorable. C'est pas grave, hein. J'avais un ami qui me disait, quand je lui disais qu'on jouait pas assez ensemble, il me dit t'inquiète, on a toute la vie pour jouer. Voilà, on a toute la vie pour jouer. Si cette partie-là, elle est ruinée parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien à côté, ben, vaut mieux s'occuper de la personne qui ne va pas bien. Ou, si ça va vraiment mal, l'adresser à des professionnels qui sont capables de s'en occuper, hein, de ne pas se prendre non plus pour des psychiatres quand on n'en est pas, ça c'est important. Hein. En GN, j'ai beaucoup vu ça, de gens qui disaient, bon allez, on s'occupe de toi et tout, et puis, il y a plein de dispositifs, voilà. Savoir s'arrêter, et savoir ne pas en vouloir à la personne qui vous fait arrêter, c'est très très important, d'accord ? Ne pas lui reprocher derrière, oh la partie a été géniale, c'est dommage que t'aies craqué quand même, hein. Voilà.
Je vais peut-être dire une grosse bêtise aussi, mais là où c'est limite, enfin, par exemple, j'ai suivi des comédiens qui bossaient sur une pièce qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou, tout le monde a vu le film, et il y a aussi un côté où les gens qui vont voir cette pièce-là, ils savent qu'ils vont s'en prendre la gueule, ils savent que ça va être douloureux. Et j'ai vu des spectateurs qui avaient eu un séjour en HP quelques mois avant, qui en sont sortis avec vraiment les larmes et la pleurante. Après, là où, de toute façon, je vous rejoins dans tous les cas, c'est que sur une pièce comme ça, si la personne ne va pas bien, elle va sortir. Et c'est vrai qu'encore une fois, on est captif sur un jeu de rôle, et que donc il faut aussi laisser la possibilité de la sortie. Mais c'est vrai que la limite entre ce que je suis en train de vivre, c'est très dur, mais j'ai envie de continuer à le vivre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vivre, et puis la limite de je peux plus, elle est très très mince. C'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les gens autour, je pense, de la discernement.
Et puis on ne sait pas a priori comment ça va se passer, ce qui va se passer. C'est vrai qu'on ne se connaît pas en jeu tant qu'on n'a pas joué. On ne sait pas si une scène va nous bouger. Enfin, voilà, on peut se laisser surprendre. Et un truc qui est assez intéressant, je trouve, c'est d'apprendre à se connaître de partie en partie. Un truc idiot, moi je suis arachnophobe. Mais je me disais, bon, c'est bon, enfin, voilà, les derniers, elles ne sont pas vraies, elles existent dans ma tête, on en parle, machin, tout ça, c'est cool. Jusqu'au jour où mon personnage s'est retrouvé coincé dans un puits avec une araignée, mais géante. Et il a fallu jouer le combat, et c'était pas gagné. Et plus ça avançait, plus le truc était proche. Et donc, je jouais par manga, donc en casque. Donc les images, elles arrivaient vraiment directement entre mes deux oreilles, directement dans ma tête. Et je finis par arracher le casque. Et maintenant, je sais que quand je vois débouler la question d'une araignée géante dans les monstres, je dis, alors ça, s'il vous plaît, non, on peut trouver autre chose. Donc voilà, on reformulait des choses. Une araignée sanglier qui devait... Est-ce qu'on peut dire sanglier à 8 pattes? Moi, ça me va. Ça ne fait pas la même chose. Et du coup, voilà, on va essayer de contourner un peu le truc. Mais du coup, voilà, je pensais que j'étais une grande fille et que quand même ça allait. Et puis des fois, bah, on se laisse surprendre et ça va pas. Et c'est important, là je m'adresse au meneur de jeu, ce qui est, c'est de laisser des paliers en fait. De monter dans des trucs intenses, mais par paliers, histoire de laisser le temps au joueur ou à la joueuse de dire oh, stop, on va s'arrêter à ce niveau-là, là, ça va, l'intensité, ça me va là. Histoire de pouvoir régler le truc. Alors que si on commence. J'aime bien les milieux, les débuts de partie in media res, mais dans ce cas-là, on fait du in media res, on va dire soft, mais commencer direct sur une scène, je sais pas, d'humiliation, d'agression totale, où le PJ morfle la mort, etc., c'est pas laisser le temps au joueur ou à la joueuse de faire wow, j'avais signé pour ça, je savais pas, j'ai pas eu le temps de dire stop, j'ai même pas compris ce qui se passait, enfin voilà. Donc laisser le temps y aller par palier, tout bêtement. Laisser le temps au joueur ou à la joueuse de gérer elle-même, en fait, son émotion. Ça, c'est à elle aussi de savoir dire ok, là, on est bien, c'est à la limite, ce serait bien que ce soit pas plus. Ce genre de choses.
Dernier petit truc rapide, moi je ne suis pas une grande fille, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est pas des cas théoriques dont on est en train de parler. On a fait une campagne d'un jeu qui s'appelle Liberté, dans lequel on joue des enfants qui sont soumis à des situations d'horreur. On joue toute la campagne, moi je jouais une gamine, une princesse, c'était absolument génial de jouer la princesse, et on joue toute la partie, toute la campagne, 5-6 séances, dernière scène quasiment. Je vis le moment où ma gamine perd son enfance et est obligée de devenir en quelque sorte adulte pour s'occuper d'autres plus petits. Et cette sensation, tu vois, de perte de l'enfance, ça m'a frappé en pleine gueule parce que ça m'a renvoyé à ma propre vie, etc. Enfin, bref, ce genre de choses. Et j'ai eu besoin derrière de parler. Les autres étaient, ouais, on a fait la campagne, c'est cool et tout. J'ai dit non, s'il vous plaît, on peut s'arrêter 2 minutes, on peut en parler un peu, parce que là, moi, je le sens pas. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de sortir de ce milieu-là, parce que c'était dur. Et c'est rien. C'est le moment où on se dit, bon, bah voilà, moi je suis la grande, je vais m'occuper des autres, allez, moi je vais les organiser, je vais arrêter mes caprices de princesse, et on va s'enfuir de cet endroit qui est en train de se faire massacrer par des monstres. C'est rien, quoi, c'est une scène qui est plutôt cool. Ben, moi, ça m'a vachement fait mal à cet endroit-là. Donc, j'ai eu besoin d'en parler. Et comme j'étais avec des gens sympas, top, ça s'est super bien passé.
Merci Julien, du coup, tu viens d'aborder le thème du débrief après la partie qui m'est assez cher, moi, personnellement, et que je considère comme, peut-être pas nécessaire à chaque partie, mais qui, quand on a vécu ensemble des moments forts, me semble important. Je vous propose. À moins que vous ayez d'autres choses à ajouter.
Sur le débrief, je veux juste dire un truc.
Ouais, vas-y.
Là, j'en ai besoin. Il y a des gens qui débriefent mieux, seuls, tranquilles, dans leur coin. D'accord ? Faut pas les forcer à faire un débrief quand ça va pas. Hein. Ça, c'est le meilleur moyen d'aggraver les choses.
Oui, mais ils ont toujours le choix de se taire. Mais d'ailleurs, je pense que le débrief, ça doit plus être une scène en jeu. C'est-à-dire que. Bon, c'est une question de confort après, mais tu sais passer de la table de séjour où on a joué au salon pour prendre une dernière tisane ou un cognac. Et effectivement, on change la dynamique quand on fait ça. Je pense que c'est intéressant de pouvoir changer, casser cette dynamique. On sort, on va dans les, on va au backstage, hein, c'est aussi bête que ça.
tu proposes, mais t'en poses pas. Quoi.
C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Il nous reste une petite dizaine de minutes, j'en profiterai volontiers pour les questions, je vois que les mains se lèvent déjà. Je vais faire le monsieur Royal. Je me permets, juste parce que une main s'est levée derrière toi, juste avant.
Bonjour, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Un truc qui nous a frappé, c'est tout ce que vous dites sur la gestion des émotions, sur le confort affectif, émotionnel, etc. Moi, je fais du BDSM et les outils sont les mêmes. C'est flagrant et c'est hyper intéressant de voir ça, notamment le débrief comme l'aftercare, les signaux pour dire ça ne le fait, ça ne le fait pas, c'est le safe word. Enfin, c'est passionnant, quoi.
Faut être honnête, c'est là pour les appliquer. Hein.
Ah, c'est génial. Mais j'ai jamais fait parallèle entre les deux, parce que c'est possible de vivre ça en jeu de rôle et en GL, alors j'en fais.
En fait, c'est la même chose.
Tout le monde saura, moi.
C'est la même chose, mais on travaille sur les émotions, on travaille sur le mental.
En BDSM aussi.
Ouais, bah ça, je...
J'étais en réunion générale sur un jeune dernièrement et il se trouve que j'ai dû gérer plusieurs fois des joueurs qui ont subi un pouvoir qui était pendant une demi-heure tu lâches toutes les choses les plus atroces en toi. Et j'ai eu beaucoup de joueurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs en plus bisounours, qui sont venus en mode genre je sais pas comment jouer. Et j'avais envie de dire tu es le roi singe, tu as tué des gens, pourquoi est-ce que ton personnage n'arrive pas à le vivre? Et je me suis demandé est-ce qu'on avait mal écrit les fiches? Est-ce que les joueurs avaient vécu ça différemment et comment arriver à leur dire bah maintenant lâche-toi, quels exemples je devais leur donner et comment arriver à leur donner du jeu en leur faisant jouer des versions méchantes d'eux-mêmes. Et je ne savais pas du tout comment faire, je me suis beaucoup aidée de ce que j'ai appris en cinéma en étant près d'acteur, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus.
Alors pour moi, dans ce cas, moi j'ai aucun problème pour jouer des versions méchantes de moi-même, mais en fait, je vais prêcher pour ma paroisse. En GN, il y a un truc que je trouve absolument fascinant et que j'aimerais beaucoup qu'on fasse aussi en jeu de rôle, qu'on est en train de mettre en place, c'est des ateliers en fait d'avant-partie. Et bon, là c'était pas forcément prévisible, mais une fois que les organisateurs savent qu'il y a ça qui risque de poser problème comme truc, c'est de faire un atelier de une heure avant la partie où on se fait des exercices pour sortir des trucs dégueulasses et pour le faire de façon ensemble, en se disant ensemble que c'est pas grave, on n'est pas des mauvaises personnes, de voir que les autres le font, de vraiment avoir ce truc de si tout le monde y passe, si tout le monde le fait, on n'est pas ridicule, on le fait avec beaucoup de bienveillance, on le fait entre nous et ça dure que ce temps-là. Ce sera plus facile après de le réutiliser en jeu. Alors que en jeu, quand on est dans notre personnage, il y a ce risque de, je peux pas faire de rature, je peux pas, si j'étais pas bon ou si je suis pas content de ce que j'ai fait, contrairement à une pièce de théâtre où ça a été bossé, où on a essayé des trucs dans un sens, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a essayé des trucs dans la mise en scène, on a essayé de sortir des trucs, et puis la façon dont on le disait, on n'était pas convaincu, on va le refaire, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous plaise, et ben, il y a moyen, en fait, de faire ce petit travail-là, en amont de la partie, dans un atelier, et le fait de le faire tous ensemble, en fait, on se fait confiance. Et alors là, je parle pour sortir des trucs dégueulasses, mais ça peut être aussi pour des engueulades entre PJ. Pour être sûr que ce soit bien pris, qu'on soit capable de tous se hurler dessus et de se faire des scènes mais ultra violentes, mais de savoir s'arrêter quand il faut, de savoir avec quelle personne je peux me permettre de le faire, avec quelle personne pendant l'atelier j'ai vu que bon moyen je vais éviter. Donc voilà des trucs comme ça pour mieux se connaître et puis pour se faire confiance en fait. Et l'avantage de l'atelier voilà c'est encore une fois c'est pas dans la partie donc on risque pas de faire un truc qu'on va regretter.
Je suis bien d'accord avec toi, avec par rapport à ce.
Tu peux y aller.
Oui, bonjour. Alors moi, j'ai juste pour répondre à la question de la jeune fille, parce que ça fait 15 ans que je fais du GN. Donc du coup, en fait, faut faire. Là, il y a effectivement beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Il y a des articles qui vont sortir. Il y a des jeunes aussi qui commencent à s'intéresser à la sécurité émotionnelle, etc. Donc moi aussi j'ai écrit mon GNHU, on va dire ça comme ça il y a pas longtemps, et en fait j'ai vraiment bossé ma communication en amont sur la note d'attention, qu'est-ce qu'il y avait dans mon GN, et ça sans révéler les secrets, parce que c'est un GN secret, mais c'était sans révéler on va dire les choses et c'est vrai que c'est très important si tu avais une intention de dire il y a un moment donné dans le GN vous allez peut-être devoir ressortir quelque chose, et ben peut-être que ces gens ne seraient peut-être pas inscrits. Non, mais c'est juste. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention dans sa communication en amont. Et parce que du coup, moi, par exemple, ce gène-là, j'ai pas beaucoup de personnes qui ça fait parce que j'ai oui, vous avez le si, vous avez le ça, vous avez le si, vous avez ça. Et du coup, en fait, ça filtre également beaucoup les joueurs qui ont un peu tendance à s'inscrire à n'importe quoi. Voilà.
C'est grâce à ça. Alors, j'ai des gens qui avaient levé le bras avant. Désolé pour cette frustration.
Il y a sur j'ai vu apparaître dans certains blogs la ice card. Pour savoir gérer cette émotion, je trouve que c'est un outil, pas gérer les émotions, mais pour à un moment donné dire stop sur certaines choses débordent. Je trouvais que c'était peut-être un outil supplémentaire dans la boîte d'un maître de jeu ou même à la table. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Alors ça c'est marrant, la X-Card ça fait un gros débat en ce moment alors que...
C'est quoi?
Alors, on peut expliquer, en fait on prend une carte sur laquelle, ou un petit papier, sur laquelle on écrit un X et qu'on pose en jeu de rôle au milieu de la table. Si quelqu'un veut dire stop, changer de sujet, en gros ça veut dire ça, stop, changer de sujet, soit il touche la X-Card, soit il montre la X-Card, soit il fait un X avec les bras, soit il dit carte X. Il y a plein de solutions, mais en gros ça veut dire stop, changer de sujet. Parce que je vois que la scène là c'est en train d'escalader vers quelque chose, comme je parlais des paliers, typiquement laisser le temps aux gens d'activer une carte X, c'est je vois que c'est en train d'escalader vers quelque chose qui me plaît pas, ou que je vais avoir du mal à gérer, carte X s'il vous plaît stop, et où ça va, tout d'un coup il y a un sujet qui déboule dans la conversation, alors que typiquement l'araignée géante, on l'avait pas du tout, on est dans du contemporain, on joue du FBI, et puis tout d'un coup il y a ça qui déboule, je n'avais pas du tout prévu, j'ai pas dit avant, s'il vous plaît, je vais pas me présenter, bonjour, génie, arachnophobe. La X-Card ça permet de dire, s'il vous plaît, non pas ça. Le problème. L'avantage, ce que j'aime, c'est que ça ne coupe pas la scène. On change juste de conversation. Moi, les fois où je l'ai utilisé, en fait, j'étais spectatrice d'une scène entre d'autres personnages et je voyais le truc qui escaladait et je voulais pas que, enfin, voilà, je voyais l'issue et l'issue ne m'était pas supportable. Donc j'ai fait carte X avec les bras. J'ai vu que les joueurs avaient vu que je l'avais fait et la scène, en fait, a pris, je ne sais pas comment. Ça a été fluide, a pris un tour différent et c'est parti ailleurs. Et dans ce cas-là, c'était tout à fait OK pour moi. Donc ça n'interrompt pas le jeu. On ne coupe pas le jeu pour dire « Arrêtez tous, je me sens pas bien !» Parce que c'est pas évident. Le problème de la X-Card, c'est qu'il y a plein d'émotions négatives qui sont pas... C'est vraiment fait pour des trucs précis. Des moments précis, des thèmes précis, des trucs où on sait entre nous. Enfin voilà, on sait ce que veut dire le X parce qu'on est en train, il y a le sujet du viol par exemple, on est en train de se diriger vers ça, on se doute que c'est ça qui veut dire le X. Mais si c'est, il y a des trucs beaucoup plus diffus, il y a des malaises qui sont pas du tout dus à des sujets, mais dus à la façon dont on ne me laisse pas parler pendant le jeu par exemple, et ça une carte X ça me protégera pas. Il y a aussi, pour moi, l'outil ne remplace pas la bienveillance et la façon dont on s'en sert. C'est-à-dire qu'un MJ qui arrive, qui pose sa carte X, qui n'explique pas forcément comment on s'en sert, ou alors des joueurs qui l'ont jamais utilisé, qui ne savent pas ce qui se passe, s'ils utilisent, c'est pour ça que je reviens à la notion d'atelier, si on utilise la carte X, on ne sait pas qu'on ne va pas, forcément qu'on ne va pas couper le jeu. Donc on hésite, on se dit « je ne vais pas couper le jeu, même avec une carte X ». Quelqu'un brandit la carte X et nous on sait pas réagir, on se dit merde, comment je vais changer de sujet, etc. Donc pour ça un atelier avant, juste on se balance pas forcément des thèmes horribles, on se dit juste on va jouer une scène au milieu, on sait qu'il y a au moins une personne qui devra sortir la carte X, pas parce qu'elle sent mal ou quoi, mais juste pour qu'on voit ce que ça fait de l'utiliser. Ça c'est limite nécessaire avec l'outil. L'outil remplace pas le fait qu'on sache s'en servir, qu'on sache qu'on peut s'en servir, et le fait que le MJ, enfin, en tout cas la personne organisatrice, prenne le temps de dire vous êtes important et importante. Votre bien-être vaut plus que l'expérience qu'on va jouer ce soir. Cette carte, elle est là pour dire ça. Mais si je ne l'explique pas, c'est pas sûr que tout le monde soit au courant.
Pour prendre le parallèle avec le BDSM aussi, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que tant que la carte n'a pas été touchée, c'est que ça va bien. Et du coup, on peut pousser la chose, et si c'est l'objectif de la séance, si c'est l'objectif de la partie, voilà, on peut vraiment se faire plaisir, et en étant sûr qu'on n'est pas en train de choquer quelqu'un. Et ça peut donner des choses merveilleuses.
Ou ça peut donner des choses horribles. Parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser comme un alibi. En se disant, voilà, on a posé la carte X, maintenant on peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est le truc auquel il faut vraiment faire gaffe. C'est un premier filet de sécurité, mais qui est extrêmement fin. Il ne faut pas essayer d'aller tester et tout. On se donne l'autorisation d'aborder des choses potentiellement difficiles, ça ne nous dédouane pas de faire attention, comme tu disais, je pense que tu le penses aussi, à ce que font les autres. Donc oui, moi, quand j'utilise la carte X, c'est dans des jeux dans lesquels je veux aller loin, dans lesquels je veux aller challenger ces émotions-là, dans lesquels je veux tester des choses. Mais ça n'empêche que si je vois que ça ne va pas, même si la carte X n'est pas pointée, parce que si ça devient comme ça une espèce de défi, en se disant « Ah ouais, maintenant je cours, va !» Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout si c'est le seul dispositif de sécurité qu'on a. Mais après, effectivement, on peut jouer de plein de façons. On peut jouer sans sécurité si on a envie, simplement il y aura des conséquences en général derrière. Et les conséquences sont rarement pour les joueurs, parce qu'ils ont accepté d'être là, ils ont fait leur truc. Les conséquences sont celles des pires que je me suis prises, c'est en tant qu'organe. J'ai fait mal à quelqu'un. Quand j'ai fait mal à quelqu'un, c'est bien pire que quand moi j'ai eu mal. Personnellement. Peut-être que je ne suis pas trop psychologue.
Je remonte très rapidement là-dessus avant de clôturer. Non, je suis désolé. J'en profite pour ouvrir un peu ma gueule, parce que vous avez beaucoup parlé. Hein. Ça m'est arrivé en situation professionnelle, en formation, d'avoir quelqu'un qui craque, alors que j'étais formateur. C'est chaud à gérer. C'est extrêmement chaud à gérer, et on est extrêmement mal en tant que porteur de l'intention. Donc, n'oubliez jamais qu'on est face à des outils qui sont extrêmement efficaces, mais sur lesquels il faut faire attention à l'autre avant tout, bien sûr. On parlait de BDSM, évidemment, dans les mêmes mécanismes, parce qu'on essaie de pousser aussi les limites, on s'expérimente soi-même en passant par ces choses-là. Donc, il y a beaucoup à prendre pour soi, mais on prend en considération l'autre tout le temps. Et c'est le propre, pour moi, je pense, du GN. Les jeux de rôle, c'est ce qui fait d'ailleurs une expérience de vie intéressante autour de ça, c'est qu'on est dans des interactions entre personnes qui sont consentantes, qui font attention les unes aux autres. Donc profitons-en, c'est un super outil, mais avec un maximum de discernement. Je vous remercie beaucoup.